Ce matin, j'ai choisi un texte évidemment très connu, mais qui est toujours tellement riche qu'il mérite qu'on s'y penche de nouveau. Dans l'évangile de Jean, les chapitres 1, versets 1 à 17. Il s'agit du prologue de l'évangile. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de la volonté de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, il s'est écrié, c'était de lui que j'ai dit, « Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Je vous invite à chanter le cantique 172, les strophes 1, 2 et 3, dans les louanges et prières. Prions ensemble. Éternel, bénis notre lecture. Permets que nous puissions voir dans les mots anciens les paroles pour aujourd'hui, pour notre vie d'aujourd'hui. Que ces paroles venues de loin, parfois si hermétiques à notre compréhension, devienne lumière sur nos chemins. Amen. Le prologue de l'évangile de Jean apparaît comme un ovni parmi les textes bibliques, comme un moment hors du temps, un discours symbolique qui surplombe tous les discours sur Jésus et donne une dimension cosmique à un acte pourtant si courant pour l'espèce humaine, parler. Si de nos jours les recherches sur les animaux montrent de plus en plus la richesse extraordinaire des langages qu'ils élaborent pour communiquer entre eux ou avec les autres espèces, parler reste l'activité et la grandeur caractéristique de l'être humain. Dans ce prologue qui résonne comme un programme, la parole personnifiée semble exister plus que les personnages dont il est question dans le texte. La parole préexiste au temps. Elle est présente dès les commencements immémoriaux du temps, les commencements du monde. Elle est auprès de Dieu. Et le texte s'aventure à dire qu'elle est Dieu. Les églises qui ont reçu ce prologue ont fait un programme divin, de ce qu'elles ont appelé le mystère de l'incarnation. Mais s'agit-il vraiment ici d'un mystère, au sens où l'incarnation de la parole serait une chose cachée, incompréhensible ou réservée aux seuls initiés ? Aujourd'hui, la parole s'est incarnée à plusieurs reprises dans le moment que nous avons vécu ensemble, lors du baptême de la petite Thaïs, et quand Lison a pris la parole pour dire sa foi et sa façon propre de la vivre. On pourrait dire que le sacrement du baptême met en jeu un mystère qui consiste à faire de l'alliance entre le geste de baptiser et les paroles qui sont dites un acte surnaturel qui introduirait du divin dans le monde des humains. Pourtant, notre compréhension protestante du sacrement est claire sur ce sujet. Le sacrement est signe d'une grâce invisible, un signe, comme les lettres d'un alphabet, comme le geste de la langue des signes, comme ce que le corps fait pour incarner une parole. Un signe n'est pas un mystère, mais une parole qui s'incarne. Pour qu'un sacrement puisse avoir lieu, il faut que des corps incarnent une parole, venue de loin ou non, mais qui rend visible le rapport très intime d'une personne ou d'une communauté à la signification de mots énoncés dans une culture donnée, et qui font religion en reliant la foi des anciens à celle des contemporains. Incarner une parole sacramentelle relève ainsi plus d'une présentification, comme disait Søren Kierkegaard, que d'un mystère. Une façon de rendre actuelles, présentes, des choses anciennes et les rendre présentes différemment, puisque les rendre présentes dans le monde contemporain. Rien n'est alors caché, mais au contraire, la parole est partagée et rendue proche, et presque palpable par l'incarnation qui en est faite. Dans la tradition catholique, le mystère vient du caractère sacré du prêtre. Dans le protestantisme, il n'est pas besoin de faire endosser des choses sacrées à celles et ceux qui incarnent les paroles pour que celles-ci deviennent signes visibles d'une grâce invisible. Être porteur de signes, sémaphore de la foi, n'est pas réservé au seul pasteur. Le baptême et la cène peuvent très bien avoir lieu avec ou sans pasteur, car ce n'est pas la présence d'un clerc, et le pasteur n'est pas un clerc, qui change la nature du signe, c'est la réception de la communauté. Et si le pasteur incarne une parole pour la communauté, c'est dans une logique de service de la communauté pour lequel il est mandaté et en aucun cas pour une différence de nature entre lui et les autres membres de l'Église. S'il y a différence de service, il n'y a donc pas différence de dignité. On comprend à ces nuances sur la question du sacrement que l'incarnation peut vite devenir le lieu d'un pouvoir particulier. Qui pourrait dire les paroles sacrées? Qui pourrait rendre le geste efficace? Qui a le pouvoir de cela? Incarner une parole, c'est être la parole, selon des conditions particulières qu'il faut sans cesse définir. Il est intéressant de noter que c'est autour du baptême et des deux figures de Jean et de Jésus que se met en scène dans les évangiles la question de l'incarnation. Bien sûr, il y a les récits de nativité qui mettent en place la question de l'incarnation du divin dans l'humanité. Mais le baptême, lui, nous parle de l'incarnation de la parole dont l'Ogue nous dit qu'elle est Dieu. Si, dans nos Bibles, seuls deux évangiles se lancent dans l'incarnation biologique avec le récit de la naissance de Jésus, avec toutes les difficultés que présentent ces récits, les quatre, en revanche, nous parlent du baptême comme moment inaugural de l'incarnation de la parole de Dieu. Comme si le signe que Jean le Baptiste posait avant que Jésus ne vienne le recueillir était la grammaire du langage des évangiles et que Jésus allait lui donner chair, qu'il allait donner à tous ces symboles un sens particulier, une signification incarnée. La chair est une notion difficile à résumer. Ce n'est pas la viande, mais en même temps, c'est la matière du corps. Ce n'est pas la métaphore des sens, mais en même temps, sans les sens, la chair n'est rien. Ce n'est pas la biologie de nos vies, et en même temps, sans notre caractère mortel, la chair n'a plus de sens. La compréhension de l'incarnation dépend de la signification que l'on choisit de donner à cette chair dont parlent les Écritures. Le prologue tente d'en donner tous les aspects. Il parle d'existence, de vie, de monde et de demeure et tente d'expliquer comment la parole peut prendre chair. Dans le prologue de Jean, la parole vient comme une hôte dans le monde et y fait sa demeure. Elle habite une chair qui, sans elle, serait uniquement organique, matérielle, sans autre dimension symbolique. Mais on pourrait comprendre l'alliance entre la parole et la chair autrement et y voir une force de transformation que ferait de la chair un nouveau langage. La parole ne serait plus alors son hôte, mais une partie d'elle, une de ses modalités d'être. On pourrait aussi comprendre la chair comme tout ce qui est matériel et la parole comme tout ce qui donne une signification symbolique à cette matière. Alors l'incarnation ne serait plus seulement l'affaire de l'espèce humaine, mais le monde pourrait incarner lui aussi une parole. Comme dans le premier récit de la création, où les plantes, les océans et tout ce qui existe sur notre planète prennent sens par la création qui met en ordre le chaos et assigne une place particulière à chaque élément de l'écosystème, mettant de la parole, du logos, là où il y avait le désordre et l'incompréhension. Dans ces variations de perspective, la figure du Christ prend une signification plus vaste que celle de l'homme de Nazareth. Le Christ n'est plus un homme de chair et de sang, mais l'archétype de l'alliance entre la chair et la parole qui lui donne vie. Et à bien y regarder, c'est dans cet archétype que se joue notre accès à la parole de Dieu. Comment comprendre cette parole ? Comment pourrait-elle nous concerner, nous qui sommes tout sauf des dieux ? Inscrits sur la terre entre naissance et mort, avec nos facultés limitées et nos difficultés symboliques qui nous empêchent de communiquer ce que nous voudrions communiquer de plus essentiel. Le Christ représente cette nouvelle grammaire de notre chair à partir du moment inaugural de son baptême, qui marque le moment où l'homme de Nazareth devient par adoption de Dieu, par homologation divine, par onction divine, le Fils de Dieu. Il est le Christ donné pour notre salut. Cette homologation passe par une parole d'amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie. Ainsi c'est cet amour qui rend Jésus Fils de Dieu, comme il nous ouvre le chemin pour devenir nous aussi enfants de Dieu. Si ce matin nous partageons une parole de grâce avec une enfant et une petite fille, c'est, comme le disait Lison, parce que cette grammaire de notre chair a besoin d'un lieu où exprimer l'amour qui donne la vie à la chair. C'est ce que j'appellerais la chair de la chair avec un E à la fin, le lieu où s'annonce la transformation de cette chair sans eux. La chair, lieu de la parole dans lequel je me trouve, est le lieu que l'Église de Jésus-Christ dédie symboliquement à l'annonce de cet amour qui anime de façon particulière la chair, c'est-à-dire notre humanité, réalité de notre existence et de l'existence de notre monde. Mais ce lieu où je me tiens n'est que le signe symbolique de cette chair particulière où s'annonce le salut de Dieu. Car on peut, et à mon avis, on doit annoncer l'amour de Dieu aussi ailleurs que dans la chair des églises. La chair de la chair, c'est tout endroit où l'on peut incarner par nos gestes, nos paroles, nos actions, nos engagements, cet amour qui donne la vie à ce monde et que Jésus est venu annoncer par son service. C'est chaque fois que nous faisons la parole de Dieu vivante, que nous la rendons présente, que nous la rendons efficace, que cette chair est vraiment là pour annoncer que le Verbe s'est fait chair. La communauté sur laquelle Lison veut pouvoir compter est un des lieux où doit s'exprimer cet amour pour elle. C'est un des lieux où s'exprimera aussi l'amour de Dieu pour Thaïs. Cette communauté charnelle n'est pas le lieu de la perfection, puisqu'elle est elle aussi marquée par la finitude de la chair, par la peur, par le manque de foi, par l'ignorance, la vulnérabilité et la mort. Mais elle est le lieu de la proclamation d'une parole de salut pour le monde, reçue et partagée. Incarner la parole de Dieu, c'est être capable de promettre comme le faisait le Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et qui frappe, et à qui frappe on ouvrira. C'est ce texte qu'a choisi Lison pour sa confirmation. C'est ce passage de l'Évangile qui lui a parlé à elle. C'est cette parole qui s'est incarnée en elle. C'est se mettre au service de toutes celles et ceux qui veulent vivre de la parole de Dieu que de venir rejoindre tous ceux qui servent cette parole. Il faut donc que ce qui est prêché et annoncé dans les églises incarne véritablement la parole d'amour de Dieu. Ce n'est pas un exercice de rhétorique, c'est une façon de rappeler le rôle très important que nous avons dans ce monde. Il faut donc donner chair à nos chairs, donner chair à nos lieux d'annonce, à nos lieux de proclamation, pour qu'elles soient des lieux d'une parole d'engagement pour ce monde. Il faut donc donner chair à la chair et faire que la parole annoncée devienne l'affaire de tous et de toutes dans leur vie. Amen.